Alors ce matin, on va regarder, en fait, dans le fond, ce que j'apportais ce matin, c'est concernant l'hypocrisie spirituelle, et on va regarder ça ensemble dans le sermon sur la montagne, un petit peu. Louis-Philippe a fait un petit peu d'allusion, et curieusement, dans la petite capsule pour enfants, on en a fait un petit peu allusion à travers le sermon sur la montagne, à travers « À chaque jour suffit sa peine ». Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 7. Dans le fond, cet Évangile-là, tout le chapitre 5, 6 et 7 dans Matthieu, c'est le sermon sur la montagne que Jésus, en haut de la montagne, là, fait à la multitude. Et on va se concentrer ce matin sur la dernière section du sermon sur la montagne. Mais avant d'aller dans le texte, j'aimerais ça qu'on puisse prier ensemble. Papa du ciel, Seigneur Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs, je te demande ce matin ta bénédiction, particulièrement sur cette belle église à Trois-Rivières, sur chacune des personnes qui sont ici dans cette salle, chacune des personnes qui sont chez elles, qui regardent peut-être cet enseignement sur Internet, soit sur eux, soit sur chacun de nous, soit avec moi ce matin. Aide-moi à, et même plus qu'aide-moi, donne-moi tes paroles. Donne-moi les paroles qui vont toucher les cœurs. C'est toi qui fais le travail. Je veux être un instrument entre tes mains, mais c'est toi qui opères l'instrument. Et fais-le, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu fais dans chacune des âmes qui est devant toi. Dans ton beau nom, Seigneur Jésus. Amen. 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 Alors, on va commencer tout de suite avec, dans le fond, je vais essayer de suivre ici, hypocrisie spirituelle, et on commence avec, même Louis-Philippe en a parlé, je pense, de la porte étroite et de la porte large. Curieusement, on ne s'est pas parlé, mais ça a donné qu'il en a parlé. Alors, Jésus, quand il commence, bien, vers la fin, plutôt, là, de son sermon sur la montagne, il va dire ceci. Dans le fond, dans toutes les paroles qu'on va voir ce matin, c'est toujours Jésus qui parle. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite, petite est la porte. Resserrée est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. » Donc, on comprend bien ici qu'on se trouve devant une situation où on a comme deux scénarios, deux choix. Une porte qui est large. Imagine-toi une porte dans un centre d'achat, là, où il y a 10 portes quand tu arrives, là. C'est large. Et ça conduit sur une voie qui est spacieuse, une autoroute, où que tout va bien, tout asphalté, t'as l'air climatisé dans ton auto, contrairement à ici, là, on commence à faire chaud, mais t'es à l'air climatisé, tout va bien, la circulation est bonne, il y a des panneaux publicitaires autour qui t'encouragent à continuer sur cette voie-là. Ça, c'est la voie large et spacieuse. Mais il y a personne qui te dit ce qui t'attend au bout, là. Toutes les informations que tu reçois, c'est ça va de mieux en mieux. Ça va bien aller. Tu es dans la bonne voie, tu es dans le bon chemin, la bonne circulation. Et à côté, ce que Jésus nous dit, il y a une petite porte. Puis il y en a très peu de gens qui la trouvent. Elle est difficile à trouver. Et une fois que tu l'as trouvée, eh bien, le chemin sur lequel elle ouvre, le chemin, il est difficile, il est resserré. OK, on a ça en tête. Il ne faut pas perdre de vue cette image-là. Les deux chemins, le chemin large et le chemin étroit. Maintenant, la suite. Les prochains versets, Jésus nous met en garde. Il va nous parler des faux prophètes. Alors, ça dit ceci. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais à l'intérieur, au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et est jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est à leurs fruits que vous reconnaîtrez qui? Que vous reconnaîtrez les faux prophètes. Jésus ici vient de nous parler qu'il y a deux chemins, un large, un très large et spacieux, puis un très petit. Puis ici, il vient commencer à nous parler de prophètes et il leur donne le qualificatif de faux prophètes. Un prophète, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait la propagande, quelqu'un qui parle, qui annonce des choses. Et ici, on s'imagine sur la voie large, l'autoroute, et les panneaux de publicité nous encouragent que ça va de mieux en mieux, que tu es sur la bonne voie, que cherche pas ailleurs, tout est correct, et les choses s'améliorent de plus en plus, puis ça te conduit vers quelque chose de merveilleux. C'est ce que les prophètes enseignent. Mais même, quelquefois, il y en a même qui vont dire, cherchez pas la petite porte, ils vont même se moquer de la petite porte et de ceux qui se perdent, qui perdent leur temps, qui perdent leur vie à chercher autre chose que la voie qui est large. Ils vont chercher la petite porte étroite, puis là, ils vont les ridiculiser en disant que, ben, tu perds ta vie. Tu perds ta vie à essayer de chercher cette petite porte-là. De toute façon, le chemin qui est là, c'est difficile. Tu vas perdre ton temps dans ce chemin-là. Tu vas t'égarer dans ce chemin-là. Et ces faux prophètes-là nous font miroiter ce qu'il y a de meilleur. Et Jésus dit qu'à la fin du voyage, eh bien là, c'est l'échec total. C'est la perdition. Mais il dit, ces faux prophètes-là, tu peux les reconnaître. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. En parlant de fruits, dans Galates, chapitre 5, verset 22, on ne l'a pas ici à l'écran, mais je vais vous le lire. Il est dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le fruit de l'esprit. Donc, ces enseignants-là, c'est à leurs fruits que tu vas les connaître. Ici, ce que Jésus parle, quand il parle de fruit de l'esprit, c'est que le chrétien, le vrai chrétien, parce qu'ici, on va parler ce matin, dans le fond, de chrétien, large, on va ratisser très large ce matin. Chrétien, dans le fond, c'est quoi chrétien? C'est quelqu'un qui croit en Dieu, qui croit en Jésus, qui croit au sacrifice de Jésus. Et quand on ratisse large comme ça, bien, on inclut plusieurs dénominations, catholiques, les protestants, les évangéliques, les témoins de Jéhovah, on ratisse très large. Mais maintenant, je reviens au fruit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur. Et toutes ces qualités-là, dans le fond, parce qu'on parle du fruit, le fruit de l'esprit, dans le fond, il contient plusieurs qualités. Et ces qualités-là, c'est lesquelles qualités? C'est les qualités que Jésus, Dieu, a toujours avec nous. C'est les qualités de Dieu. Pourquoi est-ce que je vais voir apparaître le fruit de l'esprit chez une personne, chez un chrétien? Pourquoi? Parce que ce chrétien-là, Jésus vit en lui. Imagine-toi, là, Dieu vit en toi. C'est Jésus qui vit en toi. Tu as été scellé par le Saint-Esprit de Dieu et il vit en toi. Assurément, quand ça se passe dans la vie d'un chrétien, d'une personne, assurément que Jésus, il y a des choses qui vont se passer dans la vie de cette personne-là. Il y a des qualités de Jésus qui vont transparaître. C'est comme si tu avais en toi la racine d'une plante, une plante qui pousse. À un moment donné, il y a des fruits de cette plante-là qui vont apparaître. C'est la même chose avec le croyant, le vrai chrétien il va produire sans qu'il s'en rende compte, sans qu'il ait à tirer sur ces fruits-là. Les fruits vont apparaître naturellement dans sa vie. Et c'est justement là c'est ce que Jésus nous parle quand il dit que les faux prophètes, tu vas les reconnaître à leurs fruits. Mais dans le fond, ils n'auront pas ces fruits-là. Ils n'auront pas les fruits qu'on vient de parler, qui viennent seulement de Jésus qui vit dans le chrétien. OK. C'est bon. Gardez-vous des fruits. Il vient nous parler au début des deux grandes, la grande voie, grande porte, grande voie, grand chemin, la petite porte, chemin resserré, puis il vient nous mettre en garde des faux prophètes qui viennent encourager les gens à demeurer dans cette grande voie-là, à les rassurer que c'est la bonne voie, il n'y en a pas d'autre, cherche pas ailleurs, tout va bien dans ta vie, continue à vivre comme tu vis là, et c'est juste le meilleur qui t'attend au bout. Donc, il y a une mise en garde qui est là. Maintenant, le prochain passage, Matthieu, toujours dans le chapitre 7, dans le sermon sur la montagne, où Jésus continue, il achève un peu son sermon, il dit ceci, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, ce jour-là, c'est le jour du jugement. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, c'est Jésus qui parle. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ou vous qui demeurez dans vos péchés, et vous qui continuez à pécher, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Ouh! Je ne sais pas si comme moi, quelle impression que ça vous donne de lire ces passages-là. Ça, je ne sais pas si ça vient vous chercher, mais moi, quand je lis ça, oui, je trouve ça gros. Vous savez, ces trois versets qu'on vient de voir, il y a comme deux polarisations qui se font, deux positions qui sont prises. Une première, puis une deuxième. Ça, c'est évident. Hein? Je vais vous parler un petit peu, je vais un peu commenter un peu ce passage-là, puis je vais essayer de vous mettre les deux positions, mais ça se peut que ça soit un petit peu... Je vais passer d'une à l'autre. Donc, essayez de me suivre. Je peux regarder ce texte-là et dire ceci. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Ben, n'entreront pas tous. On comprend, hein? N'entreront pas tous. OK. Ça veut dire que la plupart vont rentrer, mais il y en a quelques-uns qui ne rentreront pas. OK, on se comprend. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ben oui, la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est la parole de Dieu, c'est la Bible. C'est tous les commandements, les ordonnances, les préceptes de Dieu. Ben, c'est évident. Ceux qui font la volonté de Dieu, tout le monde va rentrer au ciel si tu fais la volonté de Dieu. Il peut y avoir des petites exceptions. Puis ce qu'il dit ici, ils n'entreront pas tous. OK? Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? » Prophétiser, c'est enseigner, c'est proclamer, c'est faire un peu comme je fais ce matin. « N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ou par ton nom? » Regardez ce qu'il dit là, c'est tout par le nom de Jésus. À trois fois, Jésus précise que c'est dans son nom. Dans le nom de Jésus, prophétiser dans le nom de Jésus, chasser des démons et faire des miracles dans le nom de Jésus. Vous savez que Jésus a tout fait ces choses-là. Il a proclamé, quand il était sur terre, il parlait constamment de son Père, du royaume des cieux. Il proclamait la vérité. Il a également chassé beaucoup de démons. Il a fait également beaucoup de miracles. Alors, Jésus a tout fait ces choses-là. Et maintenant, au verset 23, Jésus dit, « Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Hein? Ah, OK, je comprends, j'ai eu peur, mais je comprends. C'est que c'est simple, dans le fond, là. On va tous aller au ciel, sauf les quelques personnes qui ne font pas la volonté de Dieu. C'est simple, la volonté de Dieu, c'est d'obéir à ses ordonnances. Donc, ceux qui ne le font pas, puis qui font des péchés. Si tu fais des péchés, on se comprend, là. On parle de péchés, de gros péchés, là, des péchés mortels. Tu fais des petits péchés véniels, petits péchés au miel, ça passe, là. Je veux dire, il s'agit d'avoir une bonne comptabilité, OK? Des bonnes choses que tu fais, t'es accumules, et ça monte. De temps en temps, tu peux faire des péchés, mais assure-toi que ta pile ici de bonnes choses est toujours supérieure à tes manquements, OK? Assure-toi de ça. Puis si tu fais ça, tu suis la volonté de Dieu et t'as pas à t'inquiéter, là. T'as pas à t'inquiéter. T'es sur la bonne voie, puis Dieu va t'accueillir, puis il y en a quelques-uns qui rentreront pas au ciel. C'est dit ici, ils n'entreront pas tous. OK, pas tous. Ceux qui ont fait des péchés graves, ils n'entreront pas. Je comprends ça. Bon, là, je suis en train de vous expliquer. Puis quelques-uns, sûrement, ils commencent à grincher des dents et ils commencent à pas comprendre ce que je suis en train de dire. Eh bien, je suis en train de vous illustrer un peu la façon dont beaucoup de chrétiens, tout à l'heure j'ai dit qu'on ratissait large dans la façon de dire chrétien, donc ça inclut toutes les personnes qui croient en Dieu, qui croient en Jésus. Et ce qu'on appelle, la façon dont j'ai expliqué, c'est un peu le salut, si on veut, mais par les œuvres. Parce que c'est... faut que tu t'assures que ta pile ici est plus élevée que l'autre pile. Hein, ta pile de bonnes œuvres, mais jusqu'à où, quelle hauteur que ça prend par rapport à l'autre, il faut qu'elle soit très élevée, en tout cas, par rapport à l'autre. Ça, c'est le salut, si on veut, par les œuvres. Bon, on est content ici à l'Église baptiste évangélique. On ne prêche pas le salut par les œuvres. On prêche, on enseigne le salut par la grâce. Il ne faut pas que je trouve que je dépasse ma ligne. Là. Je suis serré en deux lignes. Là. Le salut par la grâce. Donc, c'est le salut en Jésus-Christ seulement. Je crois, comme vous croyez, que je suis sauvé parce que je crois en Dieu. Dieu qui a envoyé son Fils Jésus. Jésus est Dieu. Il est descendu sur la terre. Il a pris mon péché. Il se l'a mis sur les épaules. Il s'est chargé de mes fautes, de mes péchés. Il est allé à la croix. Il s'est offert en sacrifice lui-même, un sacrifice expiatoire devant son Père. Et son Père a vu ce péché-là et a envoyé sa condamnation sur Jésus. Jésus s'est fait péché pour moi, devant son Père. Et Jésus est mort à la croix, il a été enseveli, mis au tombeau, et trois jours plus tard, il est ressuscité. Je crois à ça. C'est ce qu'on appelle le salut par la grâce. Parce que, pourquoi par la grâce? Parce que, fondamentalement, je suis pécheur et je suis condamné par Dieu. Le fait que je peux avoir la vie éternelle en Jésus, que Jésus peut me sauver comme ça, c'est par pure grâce. Je ne le mérite pas. J'ai aucun mérite. C'est une grâce, comme un meurtrier qui est condamné à mort par la justice. Et là, le premier ministre ou quelqu'un en autorité va le gracier parce qu'il a le pouvoir de le gracier. Donc, il va le gracier. Donc, cette personne-là ne sera pas exécutée. Elle va éviter la mort. Elle va continuer à vivre. C'est la même chose avec moi. Gracié, je suis gracié, je ne mérite rien et Dieu me fait grâce. Ça, c'est ce qu'on appelle le salut par grâce seulement. C'est ce qu'on enseigne ici à l'Église. Mais vous voyez, entre les deux positions qui sont extrêmes, vous convenez avec moi qui sont extrêmes, bien, il y a toutes sortes de choses qui se passent entre les deux. Et dès le moment où tu prends le salut par grâce et que tu lui ajoutes une petite affaire ou que tu lui enlèves une petite affaire, ce n'est plus un salut par la grâce. C'est autre chose. Tu tombes dans l'autre catégorie. Tu tombes dans la voie qu'on appelle la voie large qui mène à la perdition. Il y a seulement une petite porte, un petit chemin étroit qui mène à la vie, et c'est à travers Jésus-Christ, à travers son œuvre à la croix, à travers ce salut qu'on appelle par la grâce seul, sans plus, sans moins. OK. Donc, dans ces passages-là, on vient de voir qu'il y a des personnes qui vont enseigner, qui vont faire des choses dans le nom de Jésus. Et il y a un lien avec les faux prophètes que Jésus nous parle juste quelques versets avant. C'est pas pour rien. Quand moi, je crois là, que Dieu, il a vraiment écrit la Bible. Il a vraiment, dans le fond, inspiré à des prophètes et ça a été écrit dans un ordre que Dieu a choisi, dans un ordre et avec des mots que Dieu a choisi. C'est ce que je crois, que la Bible est entièrement à 100% inspirée de Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle la parole de Dieu. Et quand Jésus fait son sermon sur la montagne, il a mis des choses en ordre. Il a parlé le chemin large, la porte qui est très large, porte étroite. Il a parlé des faux prophètes, des faux enseignants. Il vient de dire ici qu'il y a un risque. Il vient de parler que des personnes qui vont parler de lui, qui vont dire « Seigneur, Seigneur » et qui vont avoir fait des choses et que, oups, il y a une possibilité que quand ils vont être à la fin de leur jour devant Jésus au dernier jour, il y a une possibilité que Jésus lui-même, face à face, leur dise « Je t'ai jamais connu. Retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité ou qui vis toujours dans le péché. » C'est gros. Regardons un petit peu plus qu'est-ce qu'on veut dire par chasser des démons. Tout à l'heure, j'ai dit que Jésus lui-même a prophétisé, il a chassé des démons lui-même, il a fait beaucoup de miracles. Il y a des personnes, pas par quatre chemins, moi-même, quand je prépare ça, ça m'a rappelé des affaires. Moi-même, j'ai consulté, avant que je sois chrétien, j'ai consulté trois guérisseurs. Le premier, c'était quand j'étais jeune adulte. C'était un monsieur, J.A. Desfossés, qui était catholique sur le boulevard Saint-Joseph à Montréal. Et là, il me recevait, puis il disait il faisait une petite prière que je ne comprenais pas parce qu'il marmonnait ça. Puis je le rencontrais comme ça régulièrement pendant plusieurs mois. Ensuite, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient des témoignages comme de quoi ils guérissaient beaucoup de personnes, beaucoup, beaucoup. Avec moi, ça n'a pas fonctionné, mais ils guérissaient, selon les témoignages, beaucoup de personnes. Bon, ça, c'est ce monsieur-là. Après ça, un peu plus tard, j'ai été voir un monsieur, Michel Carayon, à Paris, en France. Et lui, il faisait des... c'était comme un chirurgien, mais à main nue. Je n'irai pas dans tout le détail, mais il faisait des grandes opérations. Bon, OK, j'étais le voir, tout ça, puis bon. Finalement, quelques années après, j'étais voir une dernière guérisseuse juste avant d'être sauvée. Et cette guérisseuse-là, elle était à Sainte-Thérèse de Blainville, un petit peu dans le nord de Montréal. Et son nom, c'est Doris Dallaire. Et elle avait un gros don de guérison. Et j'ai su, pas tellement longtemps après, même pendant que j'étais là, que cette femme-là était vraiment sa puissance qu'elle avait de faire des guérisons. Ça venait vraiment pas de Dieu. Donc ici, je veux juste vous dire que ces guérisons-là ou ces miracles-là ou c'est le fait de faire des exorcismes, de chasser des démons, peuvent venir de C'est un peu ce que John MacArthur explique dans son commentaire. Lui, il propose trois explications à ces démonstrations de puissance-là. La première, c'est que ça vient de Dieu. OK, ça vient de Dieu. Et on a des exemples ici, par exemple, dans l'Ancien Testament, le prophète Balaam, qui n'était pas un prophète de Dieu, mais que Dieu a utilisé pour qu'il puisse prophétiser. Alors, ce n'était pas un prophète de Dieu, mais Dieu l'a utilisé. Donc, il a vraiment prophétisé des choses qui sont arrivées et que c'était vraiment Dieu qui a permis ça. Donc, ça peut être Dieu. On le voit aussi dans le roi Saül, qui n'était pas un roi selon le cœur de Dieu, et que Dieu a utilisé et il a prophétisé. On voit ça dans 1 Samuel, chapitre 10. Et on voit aussi dans le temps de Jésus que Caïphe, qui était le souverain sacrificateur à l'époque, qui était un souverain sacrificateur impie, et que sans le vouloir, il n'a même pas réalisé, mais il a fait une prophétie sans le vouloir. Donc Dieu a utilisé cet homme-là pour qu'il puisse prophétiser que Jésus devait mourir pour la nation. C'était une prophétie et Dieu l'a utilisé comme ça. Donc c'est possible que dans des miracles ou des choses comme ça qui nous entourent, parce qu'aujourd'hui encore, on est confronté à ça. Comme je viens de le mentionner, moi-même, j'ai été confronté à ces choses-là. Donc, ça peut venir de Dieu. Et ce que John MacArthur nous dit aussi, ça peut venir d'une autre personne qui est le démon. Et ça, on le voit à travers différents passages dans la Bible. Justement, dans Matthieu, à la fin du chapitre qu'on regarde, au chapitre 24, verset 24, c'est dit que dans les derniers temps, il y a des faux Christ et des faux prophètes qui allaient faire de grands prodiges et des miracles, au point même de séduire, s'il était possible, même les élus de Dieu. Donc, Satan va être capable de donner de la puissance à des personnes pour qu'ils puissent faire de grands miracles et de grands prodiges. Et on peut le voir à différents autres exemples. Il y en a un autre, Séva, c'est un sacrificateur dans le Nouveau Testament, qui avait des fils, il y avait sept fils qui étaient incroyants. Et eux autres, ces fils de Séva, ils faisaient des exorcismes dans la ville, et puis là, ils chassaient des démons. Et puis, vous allez retrouver ça dans Actes 19. Alors, c'est possible que le démon lui-même soit présent dans ces choses-là. Et le dernier, je ne sais pas si ça vous intrigue, j'en ai dit deux, ça peut venir de Dieu, ça peut venir de Satan, et le dernier, ça peut venir des hommes, de la supercherie humaine. Moi, dans mon cas, avec les trois personnes que j'ai rencontrées, la première, dans son bureau, il y avait un gros crucifix en arrière, puis il était reconnu comme étant un catholique. Et lui, ce qu'il laissait sous-entendre, c'est que sa puissance venait de Dieu. Et l'autre que j'ai mentionné à Paris, celui que j'ai été voir, bien, j'ai vu par après que c'était un charlatan. Donc, c'était quelqu'un qui faisait il utilisait de la magie ou des trucs. Puis, c'est ce qu'il faisait, dans le fond, c'était carrément la supercherie. Et la dernière que j'ai été rencontrée, elle, j'ai vraiment vu que c'était vraiment animé par la puissance du diable, ce qu'elle faisait. Donc, il y avait les trois, je ne suis pas sûr que le premier, ça venait de Dieu, mais même je pense que ça venait pas de Dieu. Donc, dans le fond, dans mon cas à moi, j'ai vu deux cas qui ne venaient pas de Dieu, puis un cas que c'était de la supercherie humaine. Donc, à faire attention, ces choses-là existent, et même, je me rappelle, une fois ici, dans l'Église, il y a quelques années, il y a une femme qui m'a approché, m'a dit « Ma mère est gravement malade, elle a un cancer. » Et j'ai vu des choses sur Internet. J'ai vu un prophète aux États-Unis qui est vraiment un grand don de guérison. Tout ça, puis là, elle m'explique tout ça. Puis elle m'explique son projet de faire le voyage puis d'aller voir ce prophète-là qui fait des guérisons. Fait que là, en parlant avec elle, mais là, elle me rassurait parce qu'elle voyait que je n'étais pas trop d'accord avec son projet. Elle dit « André, c'est un chrétien, là. C'est un chrétien. J'ai été vérifié. C'est vraiment un homme de Dieu, un chrétien. J'ai écouté ses enseignements. C'est un chrétien comme nous autres, là. » Ouais. Savez-vous que les faux prophètes, là, quand Jésus dit qu'ils sont habillés en vêtements de brebis, là, c'est qu'ils ont vraiment l'apparence d'un homme de Dieu. Ils inspirent confiance. Puis ils vont te parler, ils vont te rassurer. Mais il faut être sage, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention parce qu'on peut tomber dans des pièges incroyables. C'est pour ça que Jésus dit, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Ici, j'aimerais revenir sur la volonté. La volonté de mon Père, tout à l'heure j'ai dit que la volonté de mon Père, c'est la parole de Dieu. Mais il y a un passage plus explicite dans Jean, chapitre 6, verset 40, qui définit clairement c'est quoi la volonté du Père. Et voici ce que l'apôtre Jean nous dit dans chapitre 6, verset 40. « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Jésus nous donne la garantie que la volonté de son Père, c'est que quiconque voit, qu'est-ce qu'on veut dire par voir Jésus? C'est pas le voir en réalité, c'est de quand l'œuvre de Jésus à la croix t'est présentée. Là, tu viens comme t'es exposé au salut, t'es exposé à l'Évangile. Eh bien, celui qui croit vraiment, depuis le profond de son cœur, cet Évangile, ce plan de sauvetage de Dieu, celui qui croit vraiment, bien, Jésus lui dit qu'il a la vie éternelle et que Jésus lui-même va venir le ressusciter au dernier jour pour la vie éternelle. Wow! Ça fait du bien. Ça vient nous aider à comprendre c'est quoi la volonté de Dieu qui nous est parlé ici au verset 21. Maintenant, j'aimerais vous parler du vrai Évangile. Le vrai Évangile, on le retrouve de façon concise, là, un résumé, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 1 à 4. Et c'est l'apôtre Paul qui parle, je vous le lis. « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Alors, tu vois, dans le passage de Paul ici, il nous fait un condensé du vrai Évangile. Le vrai Évangile, à deux reprises, il nous rappelle ici que c'est selon les Écritures. Donc, l'œuvre de Jésus à la croix, c'est selon les Écritures. Il avait été annoncé, il avait été prophétisé dans l'Ancien Testament qu'un Messie devait venir. Et un Messie est venu, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, est venu. S'est chargé, il les a portés à la croix pour toi. Et si tu crois ça de tout ton cœur, de toute ton âme, qu'il a porté tes péchés, s'il les a portés, ça veut dire que tu les as plus. Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. S'il l'ôte, il l'enlève, il n'y en a plus de péché. Quand Jésus a passé dans ta vie et que tu as cru en lui, dans l'œuvre qu'il a fait à la croix, il a enlevé complètement ton péché. Ton péché passé, présent et à venir, même plus loin, tes péchés involontaires, ça, on n'a pas de problème avec ça, ils ont enlevé. Mais même tes péchés volontaires, que tu vas volontairement faire dans le futur en plus, qui vont venir, tu vois, c'est possible qu'un jour, la tentation soit tellement forte que tu décides même volontairement de pécher. Même ce péché-là a été effacé. C'est puissant. Le sacrifice parfait de Jésus à la croix, là, il est extrêmement puissant. Bon, il y en a qui vont dire, « Pouah! Parfait! Profitons-en pour pécher en masse, parce que de toute façon, tous mes péchés sont effacés. Fait qu'il n'y a plus... Non, Paul, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, mais non, soyez pas insensés. Ça, j'ai même pas cette idée-là. Ça n'a aucune... Quelqu'un qui vraiment a cru que quelqu'un, Dieu même, s'est chargé de ton péché et est allé à la croix mourir pour toi. Quelqu'un qui meurt pour toi, c'est gros, là. Quelqu'un qui sacrifie sa vie pour toi, c'est gros. Imagine-toi que Dieu lui-même, le Dieu de l'univers, a sacrifié sa propre vie pour toi. Comment toi, tu peux même envisager de pécher volontairement? Donc, mais ça arrive. Ça arrive. Puis même quand ça arrive, ce péché volontaire-là, il est pardonné. Même celui-là, il est pardonné. C'est pas un grand salut, ça? Mais, comme Paul nous dit dans 1 Corinthiens, il y a une possibilité d'avoir cru en vain. Si tu changes quelque chose de l'évangile qu'on vient de parler, t'ajoutes ou tu retires, possible d'avoir cru en vain. Dans Jacques, chapitre 2, verset 19, c'est dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? » Ben, tu fais bien de croire qu'il y a un seul Dieu. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc, il est question ici que même si tu crois, il y a une façon de croire. Il y a une façon de croire, et c'est ça qu'on va terminer un peu ce matin en regardant, une façon de croire. Ici, il est question, la façon dont tu vas croire, c'est ça qui va déterminer, si on veut, la fondation dans ta vie. Parce que dans ta vie, parce que on vit, tout le monde, toutes nous autres, on vit, on est des constructeurs, on est en train de construire, on est des bâtisseurs, on bâtit notre vie. On bâtit, on rajoute des pièces sur pièces et on bâtit une structure. Mais toute cette belle structure-là qu'on bâtit, là, elle repose sur notre fondation. Elle repose sur un fondement, une fondation. Et vous savez, dans les architectes aujourd'hui, quand ils construisent un gros édifice de 50 étages de haut, ils checkent leurs affaires parce qu'ils ne veulent pas que cette bâtisse-là penche puis s'écroule. Alors, ils vont creuser un grand trou, puis dans ce grand trou-là, ils vont creuser encore plus fond, ils enfoncent des pieux jusqu'au roc solide. Pas tout. Même s'ils touchent le roc, c'est pas suffisant. Ils vont creuser dans le roc, parce que des fois, le roc, en surface, il est friable un peu. Fait qu'ils vont creuser, ils vont piocher sur le pieu, là, avec des machines, là. Tant que le pieu rentre, il cogne. Puis, à un moment donné, il a rendu assez creux dans le roc, là ça rentre plus, là, le pieu commence à s'évaser, là, il est hanté vraiment, là. Je ne fais pas comme le docteur Arruda qui écrase sa courbe, là. Mais il tape sur le pieu jusqu'à temps qu'il soit sur le roc ferme. Et que là, il n'en met pas juste un pieu, là. Il en met une quantité incroyable. Puis, ça dure des mois de temps, ça. Avant que tu voyais la bâtisse monter, là, ça prend des mois. Ils se concentrent sur la fondation, les pieux, le roc, la solidité, puis ensuite, ils vont couler du béton, puis ils vont commencer, après plusieurs mois, ils vont commencer à édifier la bâtisse. Mais c'est la même chose dans nos vies. On a un fondement sur lequel repose notre construction qui est notre vie. Et c'est ce qu'on va voir ici. Juste avant qu'on tourne dans les derniers passages, je vais vous lire 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Selon la grâce, c'est toujours Paul qui parle, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Et ça va nous introduire au dernier passage qu'on va regarder ce matin, toujours dans le Sermon sur la montagne, la toute dernière partie du Sermon sur la montagne. Donc, les versets 24 à 27. Et ici, vous reconnaissez en arrière la petite maison blanche, la petite maison que, quand il y a eu au Saguenay, il y a eu pas le déluge, mais la grande inondation. En fait, ça fait 20 ans que c'est arrivé cet événement-là. Puis la petite maison qu'on voit là, c'est la seule qui a survécu, qui n'a pas été déplacée de sa fondation. Les autres ont toutes été emportées et c'était une destruction totale des autres maisons. Mais celle-là, elle était Sa fondation, son solage était fondé sur le roc et même à travers des eaux, il a plu pendant une semaine. Puis la digue du barrage Alquin, qui appartient à Alquin, il a cédé. Puis ça a fait une inondation terrible dans toute une grande partie de la ville de Saguenay. Et là, cette maison-là, qui est devenue aujourd'hui un musée, a tenu le coup à cause de son fondement. Alors, regardons, lisons ça ensemble, Matthieu, chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui aura bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé, un fou, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ici, Jésus termine son sermon sur la montagne. C'est les toutes dernières paroles. En fait, il termine tout son grand sermon, qui a duré probablement des heures, par ces mots-là. Elle est tombée, donc sa maison, la maison de l'homme insensé, est tombée et sa ruine a été grande. Donc, il termine sur une note, sur une mise en garde. Une mise en garde qui fait tout un lien avec la porte étroite, très large, le chemin spacieux, les faux prophètes qui crient « Ne vous en faites pas, tout va pour le mieux, ça va de mieux en mieux, ça va bien aller, tout est beau. » Et là, Jésus vient un peu plus loin te dire, attention, c'est pas tout le monde qui va entrer dans le royaume des cieux. Celui-là seulement qui fait la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est tourner vers Jésus-Christ uniquement. Même si tu as fait des choses, tu as prophétisé, tu as guéri des malades, tu as fait plein d'affaires, tu as accumulé des actions, des bonnes actions, des très bonnes actions, mais ce n'est pas suffisant. Ne cours pas le risque que Jésus te dise, « Je ne t'ai point connu, je ne t'ai jamais connu. Retire-toi de moi, toi qui commets encore l'iniquité ou qui commettais l'iniquité. En fait, toi qui n'as pas été recouvert de mon sang. » Parce que c'est le sang de Jésus qui nous lave de tout péché. Et c'est ça le drame. Jésus va dire, je ne t'ai jamais connu parce que je ne t'ai pas recouvert de mon sang. Tu n'as pas cru en moi. Tu n'as pas placé toute ta confiance en moi. Tu n'as pas fait de moi ta fondation. Et cette fondation, ici, c'est nos vies. Alors, sur quoi je fonde ma vie? Sur quoi je vais baser ma vie? Est-ce que je vais la baser sur Jésus-Christ? Sur l'œuvre de Jésus à la croix? Si je la bâtis et j'y crois sincèrement que Jésus a pris mon péché, qu'il est mort pour moi, si je le crois de toute mon âme, tout mon cœur, toute ma pensée, ça, c'est la fondation. Et je vais construire ma vie, c'est-à-dire que la suite de ma vie va être conséquente avec ma croyance. OK. J'aimerais conclure ce matin en regardant ensemble un petit témoignage d'une personne qui s'appelle Joseph Tremblay. C'était un prêtre dans les années 50. Un prêtre, je vais peut-être vous montrer sa photo. Un prêtre, un jeune prêtre, qui aimait Dieu. Il aimait vraiment Dieu. Et il aimait Jésus. Et il aimait sa parole. Il aimait lire la Bible. Et il aimait faire des études bibliques, faire des sermons. Il aimait ça. Et il a consacré sa vie. Il est rentré dans les ordres, donc devenu religieux. Il a fait des études pour y arriver. Et quand il était prêtre, il voulait servir Dieu de tout son cœur, de tout son âme. Il s'est consacré, sa vie était consacrée à Dieu. Et il avait décidé d'aller au Chili comme un prêtre missionnaire pour encore davantage servir Dieu à travers des populations qui ont moins entendu parler de Dieu au Chili. Alors, on va l'écouter. Ça dure à peu près 7 minutes, puis on va, je vais revenir à la fin. Alors, je vous présente le, je ne sais pas si en arrière, si ça peut être prêt, là. Je ne sais pas si on va être capable de le voir ensemble. C'est un vieux vidéo, hein. C'était tourné, je pense, sur VHS au début, ensuite transféré sur les médias plus récents, là, mais...
Où je n'entendais pas du tout. C'était mon tour de prêcher dans la paroisse. Alors, le samedi antérieur, j'avais, comme d'habitude, écouté le programme de Billy Graham à la radio HCJB, l'heure de la décision. C'était le programme qui m'avait beaucoup aidé à préparer mes sermons les dimanches antérieurs. Cette fois-ci, j'avais choisi comme thème de ma prédication l'hypocrisie religieuse, en me prévalant du passage de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7e, qui dit ceci. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des dieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Je connaissais mes paroissiens. Je voulais attirer leur attention sur la vaine gloire que manifestaient certaines personnes devant tout ce qu'elles faisaient de bon, oubliant que bien souvent ces bonnes œuvres ne font que camoufler un cœur pourri. Et à mesure que je parlais, je sentais que la parole de Dieu me revenait à moi comme une balle de ping-pong qui vous revole dans la figure. Il est curieux de voir comment l'esprit humain, même en quelques secondes, peut établir toute une charpente de pensées qui nécessiterait peut-être des heures pour les mettre en mots. C'est ainsi que pendant que je faisais mon sermon, quelqu'un me parlait dans mon cœur. Il me faisait un sermon exactement adapté à mes besoins personnels. Je pensais parce que j'étais un religieux et un prêtre, j'étais meilleur que tous ceux qui m'entouraient. Et pourtant, moi aussi, cette parole résonnerait un jour à mes oreilles. « Je ne t'ai jamais connu. Retire-toi de moi. » Et j'entendais mes propres arguments devant cette menace et cette condamnation. « Comment est-ce possible, mon Dieu, que tu ne me connaîtras pas? Ne suis-je pas religieux? Ne suis-je pas ton prêtre? Regarde tous les sacrifices que j'ai faits jusqu'à date. Études pendant des années, séparation de mes parents, de mon pays, vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, te consacrant toutes mes richesses, tout mon corps et même ma volonté afin de mieux te servir. Et tu vas me dire que tu ne m'as jamais connu? Considère de plus toutes les souffrances que j'ai endurées durant ma vie de missionnaire. Je n'ai pas toujours mangé à ma faim. J'ai pleuré avec ceux qui pleuraient. J'ai baptisé des centaines de bébés, entendu des milliers de confessions, consolé beaucoup d'âmes éplorées, découragées. J'ai souffert le faim, la soif, le froid, la solitude, le mépris, l'ingratitude et beaucoup de menaces. Je suis même prêt à donner ma vie pour toi. Malgré tous ces arguments que j'apportais devant Dieu, cette même condamnation continuait à teinter à mes oreilles. Je ne t'ai jamais connu. Je me trouvais à bout d'arguments et de force. Je sentais que j'allais éclater en sanglots. Et là, devant mes paroissiens, je pleurais. Mes larmes m'empêchèrent de continuer mon sermon. J'étais tout simplement découragé devant cette terrible frustration d'une vie manquée. En face de mes péchés et de la condamnation de Dieu. Oh, tout cela fut trop pour moi. Le célébrant continua à dire sa messe et moi je sortis de l'église cherchant un refuge dans mon bureau. Et là, la tête penchée sur la table, j'attendis que le calme me revînt. Où me réfugier maintenant? Peut-être ma théologie me sauverait-elle si je reviens à elle et en suis fidèlement tous les dogmes et tous les préceptes. Mais cette même théologie à laquelle je voulais m'accrocher de nouveau commençait déjà à souffrir la débandade, les changements, la destruction. Je me tournai vers mes amis. Ils étaient dans la même situation que moi, incertains, me confier à moi-même, dont je n'y comptais pas, à me voir, je n'étais plus qu'une loque vivante. Je n'en pouvais plus, étant totalement épuisé, déprimé et découragé. Et c'est à ce moment-là que Dieu espérait pour me présenter sa grâce. Quand l'homme est rendu au bout de lui-même, ça donne à Dieu l'occasion de se manifester à lui. Et voici un verset qui m'a beaucoup aidé. « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Et c'est par cette promesse et cette première parole que Dieu se présenta à moi dans son salut. C'est par elle que j'ai compris mon erreur et le pourquoi du rejet de Dieu. Avec raison, il ne me connaissait pas. Je voulais me sauver par mes œuvres, et Dieu, lui, voulait me sauver par sa grâce. Quelqu'un d'autre s'était déjà occupé de mes péchés et du châtiment qui y était attaché, le Seigneur Jésus-Christ. Il est mort sur la croix pour cela. C'est pour le péché de quelqu'un d'autre qu'il est mort, pas pour lui, parce que lui, il n'a jamais péché. C'est pour le péché de qui, alors? Ne serait-ce pas pour les miens? Oh oui, c'était pour les miens. Et je me souviens des paroles du Seigneur, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je compris que je devais aller à Jésus si je voulais avoir l'assurance de mon salut et le repos de mon âme. Cette parole du Seigneur Jésus qui m'était venue à la mémoire me semblait si claire maintenant que c'était comme si le Seigneur Jésus était à mes côtés, en chair et en eau. J'eus alors la tentation de lui demander « Mais où es-tu, Seigneur ?» Avant même que ce cri d'impatience s'élève de mes lèvres, une autre parole du Seigneur me revint à l'esprit. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. »
Très beau témoignage de cet homme que Dieu est venu visiter. Vous savez, c'est une grâce, hein? C'est toute une grâce que Dieu vient nous visiter comme ça. Il vient parler à nos cœurs, il vient nous, même si nous autres, on se croit correct, on se croit justifié à travers nos bonnes choses, nos bonnes œuvres, même dans nos églises ici, même dans nos églises, on n'a pas besoin d'aller au bout du monde, là, même dans nos propres églises. Tu sais, je peux dire, ben, Seigneur Jésus, je crois en toi, j'ai été baptisé dans cette église-là, je suis devenu membre, j'ai servi dans ton église, j'étais fidèle à tous les dimanches matins, ou presque, j'ai travaillé fort, je suis devenu un diacre, un pasteur, etc. Devant Dieu, ces choses-là, ça n'a aucune valeur pour te donner accès au ciel. La seule porte étroite qui mène à la vie, c'est l'œuvre de Jésus-Christ, Dieu fait homme, et qui a pris mon péché, qui l'a pris sur ses épaules, et qui est mort à la croix pour moi. C'est la seule façon d'être réconcilié avec Dieu. C'est la seule façon d'entrer en relation avec Dieu, avec Jésus, son Fils. Et c'est pourquoi c'est dit ici, quand Jésus dit, « Je ne t'ai jamais connu. » Le mot « connaître » ici, c'est un mot particulier, qui est le même mot qui est utilisé dans Genèse, quand Adam dit, « Adam connut Ève. » Ça implique une relation très intime, même ici dans ce cas-là, sexuelle. Mais ici, quand Dieu nous parle de connaître, que moi, je vais connaître Jésus ou que Jésus va me connaître, c'est à travers une relation qui est intime, qui est personnelle, qui est vivante, qui est vraie. Jésus, si Jésus dit à quelqu'un, « Je ne t'ai jamais connu », alors là, ça sonne l'arrêt de mort. C'est le verdict final, c'est la condamnation finale. Dans le fond, l'heure est grave quand on est rendu là. C'est pourquoi je vous invite toute personne à être réconciliée. Tu sais, dans la parole de Dieu, c'est dit quelque part, je t'en conjure, je pense que c'est l'apôtre Paul qui dit ça quelque part, je t'en conjure, je t'en supplie, je t'en conjure, je vous en conjure, soyez réconciliés avec Dieu à travers Jésus-Christ. C'est Jésus seul qui peut nous réconcilier avec Dieu. Afin que Dieu, que Jésus puisse dire, je te connais, entre dans ma joie, je te connais, on s'est connus, on se connaît, entre avec moi dans l'éternité. On va terminer en priant. Peut-être l'équipe aussi de louanges peut s'approcher. Seigneur Jésus, toi qui as les bras grands ouverts, et toi qui se tiens à la porte de mon cœur et qui frappe, tu désires que j'ouvre cette porte et que je t'invite à l'intérieur de mon cœur pour que tu puisses venir souper avec moi, c'est-à-dire vivre avec moi, c'est-à-dire entrer dans ma vie et y vivre. C'est pourquoi je pourrais dire, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Seigneur Jésus, merci pour le travail que tu fais dans ton Église, à travers les cœurs que tu visites, parce que tu es en action, tu es vivant. Ton Saint-Esprit se promène sur la terre et il visite des personnes. Il les amène à reconnaître comme ce bon prêtre qui se croyait bon, mais que tu as permis par ton Esprit Saint de visiter et de lui faire comprendre que Jésus ne l'avait jamais connu. Et tu as permis que cette personne-là puisse ouvrir son cœur et t'accepter dans sa vie comme le roi de sa vie, comme le Seigneur de sa vie, comme le Dieu qui vient le libérer de son péché, comme le Dieu qui vient prendre tous ses péchés et qui vient l'accueillir pour l'éternité. Dans ton beau nom, Seigneur Jésus, merci de continuer à sauver. Amen.